Bonjour, c'est Pierre du Loir-et-Cher. Je suis savonnier et j'écoute vos émissions pendant que je fais mes fabrications. Et je m'étonne qu'il n'y ait jamais eu d'émission sur les cosmétiques naturelles et surtout toutes les mauvaises choses qu'il peut y avoir dans les cosmétiques industrielles, qu'elles soient bio ou non. Et juste pour donner un petit coup de pouce aux gens qui veulent bien faire, quand vous achetez du savon, regardez le premier ingrédient dans la liste de choses en latin et en anglais qui est incompréhensible. Si c'est marqué sodium palmate, c'est que c'est de l'huile de palme. Et d'ailleurs, le deuxième ingrédient, c'est souvent sodium palm kernelate. C'est de l'huile de palmiste, de noyau de palme. Voilà, en espérant que ça puisse aider des gens. Au revoir.
René, à côté de Châteaulin, Finistère. Alors, plutôt que de mettre des petites centrales nucléaires partout dans ce pays si arrosé qu'est la France, installons plutôt partout des picots, nanos, micros et petites centrales hydrauliques de basse chute. 2 mètres suffisent sous forme de petits dômes de béton étanches, végétalisables, équipés de turbines inox, télécommandées, délivrant leur énergie quand on en a besoin, inodores, silencieuses, simples à construire et à entretenir. Si les volontés politiques sont là, tout peut être mis en place très rapidement. Et exportant cette technologie, nous démontrerons que la France n'est pas morte et que nous avons toujours des idées. Bonne fin de journée.
Oui, bonjour Françoise, à proximité d'Autun, en Saône-et-Loire, Sud-Morvan. Je voudrais parler du documentaire de Cyril Dion, Animal, que nous avons vu la semaine dernière. Je pense qu'il faudrait montrer ce documentaire à toute notre jeunesse, à nos politiques, parce qu'on ressort bien cabossé de ces approches de la biodiversité, de la destruction de notre belle planète. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.
Bonjour, ceci est un message de Jean-Charles, habitant Pontac, petite ville à la limite du Béarn et de la Bigorre. Vous avez annoncé que vous alliez vous rendre dans les Pyrénées, et en particulier en Vallée d'Ossau, pour parler de la vie des bergers. Bienvenue en Béarn. J'espère que vous ne rencontrerez pas que des bergers en leur style à l'ours, qui sont forts en gueule, mais aussi des bergers qui sont favorables à la cohabitation avec l'ours, au point de vendre le fromage qu'il fabrique en estive en zone à ours sous le label Pédescaus, qui est le surnom de l'ours en occitan du Béarn. À ce propos, Camille, l'occitan n'est pas un patois, mais une langue. Le terme patois a été inventé pour dévaloriser toutes les langues de France autres que le français en vue de les faire disparaître. La diversité linguistique est bien plus menacée en France que la biodiversité. Ces bergers favorables à la cohabitation avec l'ours sont plus discrets à cause de la forte pression exercée par les anti-ours. Ne pas s'oublier non plus les associatifs du Fonds d'intervention éco-pastorale, dont le siège est à Pau, qui œuvre depuis des décennies pour maintenir cette cohabitation entre les ours et les bergers, qui n'a jamais cessé en Béarn depuis le néolithique. Merci de votre attention et au plaisir d'écouter vos prochaines émissions. Au revoir.
Merci Jean-Charles pour votre message. Notez d'ailleurs dès maintenant que l'émission sur le métier de berger aura lieu le 3 février prochain, en direct donc d'une ferme de la vallée d'Ossau, dans le cadre de notre semaine pyrénéenne. Et puis merci à vous Pierre pour le conseil concernant les savons. On retient votre proposition d'émission sur les cosmétiques, 01 56 40 45 45, le numéro de téléphone du répondeur. Si vous souhaitez nous laisser un message, on sera évidemment très heureux de vous écouter comme chaque jour. Ça s'est passé il y a 66 millions d'années, une météorite d'environ 10 km de diamètre provenant de la région externe de la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire frappait la Terre, laissant derrière elle un cratère d'impact dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. S'en est suivie une gigantesque explosion qui a mis fin au règne des dinosaures, mais aussi à 75% de toutes les formes de vie présentes à cette époque sur notre planète. On appelle ça une extinction de masse et la Terre en a connu plusieurs dans son histoire mouvementée. Cette histoire justement a suscité la curiosité de l'écrivain Alexis Génie, qui a reçu le prix Goncourt en 2011 pour l'art français de la guerre. Cet ancien professeur de sciences de la vie et de la Terre a eu l'idée d'explorer donc ces différentes crises de la biodiversité dans un livre Pop Science pour nous faire aussi réfléchir sur la crise écologique que nous traversons. Et il est notre invité cet après-midi, Alexis Génie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez donc Cette planète n'est pas très sûre, une histoire de six grandes extinctions qui paraît donc chez Humaine Science. Et puis à vos côtés se trouve le biologiste marin Gilles Boeuf. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous Gilles Boeuf, professeur à Sorbonne Université, invité au Collège de France en tant que professeur et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle, dont il est largement question dans cet ouvrage. On se retrouve dans un instant donc pour découvrir quelques-unes de ces grandes extinctions et vous allez bien sûr répondre aux messages des auditrices et auditeurs qui nous rejoignent sur la page de La Terre au Carré, sur les réseaux sociaux et sur l'appli France Inter. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Oui, avec l'impressionnante éruption d'un volcan sous-marin dans l'archipel des Tonga.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Anna Massardier avec à la technique Sofiane Aktib.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré. Sur France Inter.
Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont brutalement disparu. La théorie actuellement reconnue par les spécialistes est celle d'un astéroïde gigantesque de 10 km de diamètre. Un tel choc aurait dégagé autant d'énergie qu'un milliard de bombes atomiques. Aucun animal de plus de 20 kilos n'a survécu. Et les dinosaures, les plus grands animaux, ont disparu, laissant place aux plus petits, les mammifères.
Voilà, cette planète n'est pas très sûre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le livre donc que vous publiez chez Humaine Science, Alexis Génie. On en parle avec vous et avec Gilles Boeuf, un livre que vous dédiez aux disparus, j'imagine, de ces grandes crises de la biodiversité. Des disparus, évidemment, il y en a eu beaucoup, beaucoup, à différentes époques de la Terre. Pourquoi vous avez pris d'intérêt pour cette histoire, pour ces histoires ?
Alors c'est aussi une envie que j'avais de parler des sciences, d'utiliser la littérature pour parler des sciences, parce que finalement c'est les deux parties de moi, c'est-à-dire la partie scientifique, j'ai fait des études de sciences, j'ai enseigné les sciences, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a passionné, surtout la culture scientifique m'a passionné, et puis bon, il y avait la littérature qui était un peu mon jardin secret, donc j'écris des romans. Mais j'aurais voulu écrire sur la science et pendant très longtemps j'ai pas su comment m'y prendre. Et puis là, ben, il y a eu aussi une proposition de Olivera Cassens qui est l'éditrice de Human Science, qui m'a suggéré un peu ça. Et je me disais, ah bah ouais, ça c'est une très bonne idée parce que les extinctions, ça force à parler de toute la biologie, de toute la complexité de la biosphère et du vivant. Ça force à parler de tout. Et donc, je me dis, c'était pas mal de vous parler de tout. Et donc, je me suis lancé là-dedans, puis aussi parce que c'est bon, les extinctions, c'est fascinant. Il y a une réflexion là-dessus, il y a une recherche des causes, puis il y a une inquiétude sur vit-on une sixième extinction ? Ça semble-t-il, la biosphère va pas très bien en ce moment. Donc voilà, c'était un bon sujet de roman.
À la fois d'histoire, et puis voilà. Un sujet évidemment ultra concernant aujourd'hui, à l'heure où certains parlent de la sixième
grande extinction. Voilà, alors on parle, alors bon, je fais tout un chapitre où je discute, je mets en discussion ce... Ouais. Est-ce qu'on est dans une sixième extinction ou pas ? Bah, il faut avoir du discernement, faut pas tout confondre. On va mal, mais ça veut pas dire que c'est une extinction.
On va en discuter évidemment ensemble. Gilles Boeuf, vous avez lu le livre d'Alexis Génie.
Oui, je me suis régalé.
C'est quoi une grande extinction ?
Alors la définition donnée dans Nature il y a 10 ans, c'était la disparition en un temps court. C'est quoi un temps court en géologie ? À 500 000 d'années, 500 000 ans, de au moins 3/4 des espèces vivantes dans l'océan et sur les continents. C'est ça la définition qui est donnée en fait par nos collègues américains, qui étaient des géologues d'ailleurs à l'époque quand ils ont fait ce papier.
Ouais. Donc là, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la Terre.
Au moins 60, ouais. Depuis 800 millions d'années, et dont 5 majeurs.
C'est ça, on parle des Big Five en fait. Hein,
voilà,
ça,
exactement.
Les 5 majeurs, dont la plus connue, c'est celle avec laquelle vous démarrez le livre évidemment, celle qui a rayé les dinosaures de la surface de la Terre. Il y a 660 000 siècles, ça c'est amusant d'écrire comme ça au fait.
Bah, du coup, parce qu'on comprend mal en fait ce que c'est 60 millions d'années, on ne se rend pas compte. Donc si on parle en siècles, on se rend compte que ça fait beaucoup quand même. C'est long, en fait le temps géologique est extrêmement long, et c'est très très compliqué de saisir quelque chose de la géologie du fait de ce temps très très long.
Ouais.
Voilà, donc du coup, c'est
60 000 siècles.
Ouais. Donc c'est les arrière-arrière-grands-parents.
Alors, la phylogénétique, c'est quoi, Gilles Boeuf ? Parce qu'on en parle aussi dans le livre, parce qu'on dit toujours que les dinosaures ont disparu, mais évidemment, tout le monde vous rappelle que les poules existent encore.
Les oiseaux sont toujours là.
Et c'est une histoire de phylogénétique, en fait.
C'est une science qui, grâce au progrès de la génétique, nous a permis effectivement d'établir des relations génétiques entre des groupes. Et on arrive à des choses qui sont assez spectaculaires pour le grand public. Hein. Par exemple, il se peut qu'entre deux mammifères qui sont très différents, on ait plus de différences phylogénétiques qu'entre des espèces qui sont beaucoup plus séparées, le pense-t-on depuis longtemps. Donc c'est l'étude des relations génétiques entre les êtres vivants. Et justement, c'est bien expliqué dans le livre, quand on dit que l'homme descend-il du singe, de quel singe ? Eh bien simplement, nous avions un ancêtre commun à une époque. Et la phylogénie nous ramène à ça. Et ce qu'on appelle un groupe polyphylétique, c'est un groupe qui justement a plusieurs origines. Il parle très bien, notre ami Alexis des poissons. Mmh. Et il dit finalement un poisson, bah, c'est ce qu'on a sur une toile de poissonnier. J'ai beaucoup aimé ça.
Ouais.
Parce que pour un scientifique, c'est compliqué. Mais si je commence à parler d'actinopterygiens, c'est fini. Je ne pourrai plus parler aux pêcheurs à la ligne des poissons, bien sûr. C'est extrêmement varié. Il y a des groupes, par contre, qui sont super, super, tous venus de la même chose.
Ouais. Et justement, les caractères communs entre un dinosaure et une poule, c'est quoi alors exactement? C'est une question de gènes en commun?
Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire que, d'ailleurs, bon, ça a été beaucoup mystérieux au début, mais depuis qu'on a les gisements chinois depuis une vingtaine d'années, qu'on trouve des dinosaures avec la couleur des plumes, ouais, c'est magique, hein, leur posture aussi sur deux pattes très fortes et puis des pattes plus petites, transformées en ailes chez les oiseaux, on fait qu'aujourd'hui, je dis souvent aux gens, à mes amis de la LPO, je dis ça à mon copain Bougrain Dubourg, tu sais, ils sont toujours là, tous nos oiseaux, un peu plus de 10 000 espèces aujourd'hui, viennent bien sûr des dinosaures. Donc on parle de dinosaures et dinosaures non aviens, qui ne viennent pas des oiseaux.
Donc il y a encore un peu de dinosaures sur Terre aujourd'hui. Alexis Génie, vous dites qu'il n'y a finalement pas tant que ça de fossiles de dinosaures, alors qu'on a plutôt l'impression qu'elle a tout le temps et que les chercheurs nous font parler de découvertes régulières.
Alors il y en a pas mal, mais c'est pas c'est pas par millions qu'on a des fossiles. Donc on a des gisements fossiles, mais la fossilisation est un phénomène rare quand même. Pour que un squelette soit préservé, et plus encore si pour que des plumes soient préservées, de la peau soit préservée, c'est assez exceptionnel. Heureusement, du fait du temps long, on en a quand même un certain nombre.
Ouais.
Mais il n'y a pas tant de fossiles, de gisements de fossiles qui correspondent justement à cette disparition. Donc, ça peut être difficile de donner un récit très très précis des événements. Hein, on manque toujours de données. Mais à partir des données qu'on a, eh ben, on extrapole, on théorise, et la science c'est ça. On a quelques données. Et après, on tâche de trouver un scénario.
Alors, autour de la disparition des dinosaures, justement, il y a plein de questions que vous rappelez dans le sens où va la science, précisément, quand il faut préciser les choses. Comment sait-on, par exemple, qu'il y a eu une disparition massive et brutale des dinosaures plutôt que très longue et progressive?
Alors ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, justement, comme on manque un petit peu de données, il faut arriver à démontrer que dans des couches d'un certain âge, il y a ces dinosaures, et puis dans la couche suivante, qui est un peu plus tardive, il n'y en a plus. Mais bien sûr, c'est au début, quand on a pensé ça, on s'est dit, il manque d'éléments. Peut-être que dans la couche suivante, un jour, on va en trouver. Puis en fait, non. Depuis qu'on étudie les dinosaures, depuis quasiment deux siècles, eh bien, les dinosaures qu'on trouve, ils sont limités à 66 millions d'années, mmh, et postérieurement, il n'y en a plus. Donc, ils ont disparu. Alors, est-ce que ça a duré longtemps ou pas? Et là, c'est une vraie question. Est-ce que ça a été progressif ou pas? Ben, on a trouvé des éléments, des indices qui montrent que, en effet, il y a une période de disparition très brève qui se manifeste par cette couche d'argile noire dont je parle.
Ouais, dans et qui revient à chaque fois, finalement.
Qui revient à chaque fois.
À toutes les extinctions.
Donc,
ouais,
c'est la limite. Jusque-là, il y en a. Après, il n'y en a plus. Donc, on peut dire que c'est une disparition brutale, mais brutale au sens
c'est
géologique,
relatif,
ouais. Eh ben, est-ce que c'est une après-midi? Est-ce que c'est deux ans? Est-ce que c'est mille ans? Est-ce que c'est 500 000 ans? On a un peu de mal à faire des datations fines. Mais pour l'instant, la vision assez robuste, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui convergent pour le démontrer, c'est que ça a duré moins d'un million d'années, ça a duré peut-être quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années. Ouais, parce qu'il y a eu cet événement cataclysmique qui a peut-être pas détruit les dinosaures, la biosphère, etc., mais qui l'a sûrement achevé.
Ouais.
C'est-à-dire que
il y avait déjà un processus en marche.
Parce que les choses allaient mal déjà. Ouais. On voit qu'il y a une dégradation. Probablement, c'est un volcanisme colossal dont on n'a plus d'exemple actuel qui a eu lieu en Inde. C'est les Tonga multipliés par 1000, 100 000, etc.
On en parlait avec Camille.
Qui a déjà changé le climat.
Ouais.
Et la météorite vient par-dessus et c'est fini.
Allez, on se retrouve dans un instant. Vous nous direz quel est le rapport entre la plage de Bidart au Pays Basque et les dinosaures, car il y a un rapport direct entre ces deux histoires. C'est l'histoire justement de ces extinctions, dossier de la Terre au carré avec les messages et les messages vocaux également sur l'appli France Inter.
J'entends les
la fin du monde pour illustrer ce dossier aujourd'hui. Loni sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Le prix Goncourt. Alexis Génier est parmi nous pour ce livre qui paraît chez Humaine Science. Cette planète n'est pas très sûre, et le biologiste marin Gilles Boeuf qui complète le plateau pour parler de ces grandes extinctions. Alors, quel est le rapport entre la plage de Bidart au Pays Basque et les dinosaures, Alexis Génier? On aimerait bien savoir.
Les surfeurs?
Parce qu'à part vous, personne s'y intéresse visiblement.
Alors si, dans le milieu un peu des géologues, des paléontologues, etc. Parce que c'est l'endroit en France où on peut voir cette couche d'argile noire. C'est-à-dire que la côte basque, elle est très découpée, donc il y a plein de rochers, et on voit bien que c'est des couches superposées, et bien sur cette plage est accessible la couche qui marque la catastrophe, qui est le marqueur de la catastrophe.
Et donc sur sa serviette sur la plage on peut voir ça.
On peut voir ça. Alors c'est pas spectaculaire hein. Si on sait pas que ça y est, on voit pas des corps de dinosaures convulsés. C'est tout petit, ça fait 2-3 cm d'épaisseur. Ça se confond très bien avec les autres roches. Mais si on sait ce qu'on cherche, on le trouve, on peut mettre le doigt dessus. Et ça je trouve ça fascinant. On peut mettre le doigt sur les restes de la catastrophe qui a eu lieu il y a 66 ouais. millions d'années. Et ça me fascine dans la science. C'est-à-dire ouais. que les objets les plus banals peuvent avoir une histoire, peuvent avoir une profondeur, sont des traces, en fait.
Donc, amis du Pays Basque, vous avez quand même un trésor sur votre plage de Bidart.
Absolument, absolument. Ah. Alors, du coup, chaque fois que je passe devant, en voiture, en famille, je dis toujours, vous savez que là, enfin bon, c'est une sorte de running gag.
C'est ça.
Votre livre, Alexis Génier, il est sous-titré Histoire des six grandes extinctions. Gilles Boeuf, on parle depuis tout à l'heure que des dinosaures, parce que quoi, les dinosaures volent entre guillemets la vedette, je mets plein de guillemets, à toutes les autres grandes extinctions.
Pour les fossiles, oui, les gamins connaissent plus les dinosaures que les oiseaux de leur jardin aujourd'hui. Donc ça, c'est une sorte de culture, d'éducation là-dessus.
De fascination aussi.
Oui, parce que c'est bon, le T-Rex qu'on avait exposé au Muséum à Paris il y a quelques années a attiré quand même 100 000 personnes. Donc c'est vrai que c'est super à la mode, quoi. C'est grosses bêtes qui courent vite et qui mangent tout, donc c'est tout. Hein. Mais il y a d'autres crises qui sont, par exemple, moi, celle qui me passionne plus, c'est la Permétrias.
Mais c'est quand?
Là, on a les trilobites.
Mais c'est quand, Gilles Boeuf? Ça ne nous dit rien, ça.
251 millions d'années. Alors, les millions d'années, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est. C'est mon problème avec le monde politique.
Millions,
Puisque le politique est élu pour quelques années sur un terrain petit. Là, on parle de choses qui affectent le globe terrestre en entier durant des temps fantastiques. Et cette extinction-là, ça a été quand même la fin des trilobites, la fin des coraux tabulés. De même que celle des dinosaures.
Ah mais oui, c'est sûr. Là encore.
Avec les dinosaures partent aussi des ammonites. Hein,
non mais de quoi vous nous parlez, Gilles Boeuf? Non mais précisez.
Un gros escargot, c'est un céphalopode, oui. Famille des pieuvres et des sèches, des nautiles. Hein. Il y en avait partout. On a des images partout, des milliers d'espèces.
Et les trilobites?
Ils sont avant. Eux c'est avant. Eux c'est donc la première crise.
C'est quoi? Ça ressemble à quoi un trilobite?
C'est un crustacé. Trilobite. Il est divisé en trois dans un sens et dans l'autre. Trois lobes dans les deux sens. Et c'était des crustacés extraordinaires avec du gisement merveilleux. Ils avaient des yeux. Je sais pas si on a parlé de Walter Gehring tout à l'heure, qui était un grand ami. On a publié avec Walter. C'est le spécialiste mondial des yeux. Il découvre la cascade de gènes qui met en place un œil. Il démontre que, alors, les trilobites, ils les avaient pas sous la main, pour les étudier. Mais il a regardé les traces fossiles, comparé à la drosophile, à la mouche, comparé à l'humain. Et c'est merveilleux. Ces histoires de la symétrie bilatérale chez les animaux, à peu près à l'époque dont on parle ici, et ensuite de leur évolution, l'œil, il est mis en place par la même cascade de gènes chez une souris, chez un trilobite, hein, si on peut aller les regarder, et puis aussi, bien sûr, chez une mouche. Ça, c'est magique. Et aussi chez un humain.
Ah, le regard du trilobite.
Et Alexis Génier, quel lien, au-delà évidemment de l'issue de fatale, il y a entre ces différentes extinctions? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que vous en avez vu un?
Non, alors, bon, si le lien, c'est que les causes se ressemblent. Les causes, c'est en fait des crises climatiques, alors qui peuvent être liées à de la glaciation ou à du volcanisme, qui envoie dans l'atmosphère énormément de gaz. Il y a cette disparition brutale, une grosse proportion des espèces, et après, il y a le rebond du vivant, c'est-à-dire les survivants vont repeupler toute la Terre. À part ça, c'est du hasard. Alors, les scientifiques se méfient un peu du hasard. Donc, ceux qui avaient déterminé les cinq grandes, ils avaient imaginé que c'était tous les X millions d'années. Donc, devait y avoir une autre étoile sœur du Soleil qui devait perturber la gravitation et envoyer régulièrement il n'y a pas de suite à cette hypothèse, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du hasard. En effet, il y a des phénomènes géologiques ou astronomiques qui perturbent à intervalles irréguliers la planète.
Alors justement, attention pour la sixième extinction éventuelle en cours à cet argument-là.
On va en parler dans un instant précisément. Gilles Boeuf, le rebond, c'est quasiment inhérent à ces grandes catastrophes.
Complètement, puis c'est inhérent à tout, à notre économie. L'effet rebond, on en parle en économie tous les jours, en fait. Qu'est-ce qui repart après une crise, justement, dans quelles conditions ? Sur le problème des avions aujourd'hui, on en parle beaucoup. Le rebond, ça va être quoi ? De faire plus d'avions qu'avant ? C'est des vraies questions qui sont super importantes à apporter. Il le dit très bien, Alexis, il parle du vide, en fait. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Donc, quand quelque part, il y a des endroits où il n'y a pas grand-chose, ben, on s'installe, on vient avec une puissance de capacité à évoluer extraordinaire. Gould, qu'on aime beaucoup tous les deux, disait, c'est le Darwin du XXe siècle, les équilibres ponctués, c'est des très longues périodes de l'évolution, durant, ben, il ne se passe pas grand-chose. Vous savez, si ça ne change pas à l'extérieur, il ne change pas le système. C'est comme au foot, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Quand ça commence à changer à l'extérieur, ça oblige le vivant à réagir. Et c'est là qu'il se passe tous ces événements dont on parle en ce moment depuis tout à l'heure.
Alors, vous évoquez le volcanisme avec, du coup, conséquence, la baisse des températures. Un événement, en tout cas, plutôt récent, justement, par rapport à toute cette histoire, c'est celle de Tambora, éruption du Tambora en 1815, grâce au relevé des navires qui ont sillonné justement les eaux du globe, les scientifiques sont capables de dire ce qui s'est passé donc au 19e siècle avec cet événement majeur.
Pour la première fois, Michael Chenoweth sait exactement dans quelle mesure les températures ont chuté à la surface du globe et où le refroidissement a été le plus marqué. Selon lui, la température moyenne sur Terre a baissé de 1,1 degré Celsius, ce qui a suffi à provoquer un changement climatique majeur. Et à certains endroits, la chute a été bien plus brutale.
À l'été 1816, on a vu des températures inférieures de 5,5 degrés par rapport à la normale. La Suisse était au cœur du phénomène, mais il a été ressenti sur une bande allant de l'Irlande à l'Angleterre jusqu'au sud-est, en passant par le Benelux.
Pour la première fois, nous avons la preuve que le Tambora a affecté les océans et les tropiques, mais aussi l'Europe et l'Amérique du Nord.
Il a fait plus froid que jamais. Dans certaines régions d'Europe et au Canada, les températures étaient inférieures à tout ce qu'on n'a jamais enregistré. Tous les records ont été battus. Ce n'est comparable à rien de ce que nous connaissons dans l'histoire moderne.
Extrait de ce documentaire, l'éruption du volcan Tambora, film d'Elmar Bartimé, diffusé sur France Télévisions. Gilles Boeuf, un degré, ça suffit à tout changer ?
Ah que oui !
En négatif comme en positif.
C'est ce qu'on dit toujours, parce que c'est complètement circumplanétaire, c'est partout. Hein. Et un degré, vous imaginez les énergies incroyables, dans un sens ou dans l'autre, qui sont accumulées dans la surface de l'océan, moins dans l'atmosphère. Un degré, c'est gigantesque, à cette échelle-là, bien évidemment. Hein. Et c'est ce qu'on regarde, qu'on ne scrute pas suffisamment encore aujourd'hui. La COP 21, on l'a tous vécu en décembre 2015, on en a parlé ici, hein. C'est effectivement 2 degrés, c'est déjà beaucoup. À 2 degrés, on perd le corail. Donc 1 degré 5, on fait tout ce qu'on peut pour maintenir dans cette gamme-là, dans cette plage-là.
Et on n'y est pas. Hein.
Ne pas laisser dériver le système, en fait.
Alexis Génie.
Oui, alors il y a une sorte d'incompréhension de ce concept-là. C'est-à-dire, on se dit 1 degré de plus, mais c'est pas grave, quoi. Enfin, on rajoute 1 degré chaque jour, c'est presque rien.
Ça change pas nos vies.
Mais en fait, il faut se rappeler que c'est des moyennes. C'est des moyennes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important puisque 6 degrés. Ça a l'air de rien, c'est passé de 20 à 26, quoi. Et alors, c'est ce qui nous sépare de la dernière glaciation. On faisait en moyenne 6 degrés de moins, et les glaciers recouvraient la totalité de la Scandinavie et allaient jusque, une bonne partie de l'Europe. Donc, on voit que quand on parle de 2 degrés, en fait, c'est cataclysmique. Mais parce que c'est des moyennes.
Justement, la moyenne sur le globe, c'est quoi, 15 degrés à peu près aujourd'hui?
C'est un petit peu moins.
Ouais, une quinzaine.
Vous dites 15 degrés. Et sur les grands épisodes, sur les grandes catastrophes où la température a augmenté, on a atteint 36 degrés en moyenne sur le globe.
Après, c'était le Crétacé, par exemple, c'est juste avant l'extinction. On avait en effet une trentaine de degrés en plus, mais aussi la mer était 200 mètres plus haut.
Allez, on reste dans les volcans puisque c'est l'heure de Camille Passauvert.
France Inter. La Terre au carré.
À 14h30, Camille Cronier.
Et vous avez donc peut-être vu passer les images impressionnantes de l'éruption d'un volcan sous-marin dans l'archipel des Tonga le week-end dernier. Tellement énorme qu'elle a été visible de l'espace. On voit sur ce qu'ont fourni les satellites un gigantesque champignon de fumée se former sous les nuages. Et on entendrait le bruit de l'explosion dans cette vidéo prise d'une île du Pacifique. Alors, je parle au conditionnel parce que la vidéo n'a pas été formellement authentifiée, mais le volcanologue Patrick Allard la trouve crédible.
L'explosion a produit une onde de choc, une onde de pression dans l'atmosphère absolument supersonique, hein, qui se déplace à plus de 1000 km/h, qui a créé du bang supersonique dans les régions jusqu'à grande distance. Le son d'éruption a été entendu jusqu'à plus de 10 000 km. Il était entendu en Alaska et dans différentes régions d'Amérique du Sud.
Et autour des Tonga, stupéfaction. Cet habitant des Fidji raconte qu'en entendant des explosions, tout le monde s'est figé en ville avant que tout ne devienne noir. Nuage de cendres pendant que l'archipel des Tonga, lui, est coupé du monde. Le câble internet sous-marin a lâché. Mais des images satellites publiées tout à l'heure montrent certaines parties dévastées pendant que navires et avions militaires y débarquent. Alors, ce volcan Unga Tonga Unga Apai, c'est son nom, il est connu depuis plusieurs années. Il a fleuré même à la surface depuis 2014. Ça faisait une petite île. Réveillé le 20 décembre dernier, quand tout à coup, samedi donc, le bouchon a sauté.
Là, typiquement, il y a eu une décompression brutale du réservoir magmatique superficiel du Unga Tonga, qui en plus, probablement avec une interaction très forte avec l'eau de mer dans les conduits, a pulvérisé la partie supérieure du volcan.
Alors Patrick Allard reste prudent parce que comme tous ses collègues spécialistes des volcans, il ne peut pas encore expliquer ce qui s'est passé précisément. Il faut attendre que Unga Tonga se calme pour aller y faire des mesures et des prélèvements. Jusque-là, il n'y avait aucun capteur sur place. Bref, ils ont été surpris et impressionnés.
Elle nous prend de court, on va dire ça comme ça. Là, on est passé à un cataclysme. Cette éruption, elle est spectaculaire par son intensité. C'est la plus forte éruption du 21e siècle. On n'en a pas de plus puissante jusqu'ici. En énergie, c'est colossal. En quelques minutes, on va dire à peine, la colonne éruptive s'est atteint 350 km de diamètre.
Voilà, c'est énorme, digne d'un régime d'éruption plinienne, dit-il, comme celle du Vésuve en l'an 79 ou du Krakatoa indonésien en 1883. Et il n'est pas le seul scientifique à utiliser les superlatifs. Cathy Clairbeau, qui elle a la journée les yeux rivés sur les données atmosphériques au LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu et observation spatiale, les a frottés, ses yeux.
D'habitude, on voit pas tous les volcans de l'autre côté de la Terre. Hein. Là, c'est quand même la première fois que je vois ça aussi clairement. Cette éruption est tellement puissante qu'elle a envoyé un signal qui est détectable par les stations météo qui voient des différences de pression avec leurs capteurs habituels. Les stations météo en Europe, par exemple, c'est littéralement de l'autre côté de la Terre, ont vu l'onde de choc liée à cette éruption volcanique.
Voilà, une onde de choc dans l'atmosphère, comme quand on jette un caillou dans l'eau, c'est pareil dans l'atmosphère. Et même donc l'air au-dessus de nous a ressenti cette éruption, c'est quand même fou. Et ce n'est pas tout.
Elle est tellement puissante qu'elle a envoyé du gaz directement à 30 km d'altitude. Et ça, c'est incroyable, parce que d'habitude, les éruptions, c'est entre 5 et 15 km. Exceptionnellement, on passe dans la stratosphère, et donc ça, c'est au-dessus de 15-20 km. Donc il va falloir qu'on refasse des calculs et réfléchir à quels impacts ça a sur la composition de l'atmosphère, sur les vents qui vont transporter ces gaz après à d'autres endroits, etc.
Et puis, les volcanologues aussi se grattent la tête par rapport, cette fois, au tsunami provoqué par l'éruption et ressenti également là à des milliers de kilomètres aux États-Unis ou alors ici, en Équateur. Et même encore au-delà, Patrick Allard.
On a du mal à comprendre que les tsunamis aient pu sortir de l'océan Pacifique et aller jusque dans l'Atlantique. Il y a des vagues supérieures qui ont été enregistrées même au Portugal, bien sûr au Pérou, loin, mais vraiment très loin là. Comme s'il y a eu des effets de résonance au niveau des ondes marines, mais également dans l'atmosphère, bien sûr.
En tout cas, pas d'influence sur d'autres volcans et pas de garantie non plus que Unga Tonga, Unga Apai ne réexplose pas. Tout dépend en fait de la quantité de magma encore présente dans son réservoir et de la pression évidemment à l'intérieur.
Et c'est Camille Passauvert que vous réécoutez bien sûr sur la page de la Terre au Carré.
Alexis Génie, vous avez vu évidemment ces images qui tournent partout.
Oui, là on a une illustration en petit de ce qui a dû se passer. On a parlé là, de l'extinction de moins de 66 millions d'années. Donc il y a des restes d'un volcanisme gigantesque en Inde. Et également à l'époque du Permo-Trias, donc 250 millions d'années, il y a des restes gigantesques en Sibérie. Donc on peut penser que ce genre d'accident volcanologique ait une influence sur toute la planète. Là au Tonga, ça reste petit par rapport à ce qui reste d'indice de moins 250 et moins 66 millions d'années.
Gilles Boeuf, on n'est pas à l'abri donc d'un refroidissement climatique ?
Non, c'est un peu le paradoxe de la situation. Si le Gulf Stream s'arrêtait, par exemple, on en parle souvent, dans une autre ordre d'idée, hein, on parle du climat, ça serait l'inverse, on aurait un refroidissement. Pour revenir au volcan, celui qui a été beaucoup dit, c'est le Krakatoa, bien sûr, qui a été absolument, qui a été marqué à Paris pendant très très longtemps. Nos volcans sont des jouets, peut-être que celui-là est un peu plus méchant que les autres, hein, par rapport à ce qu'on a connu ici, hein, en Inde à l'époque, ou bien en Sibérie. Et c'est vrai que c'était très très important. Des émissions de CO2 gigantesques, des changements de température, dans les deux sens, hein. On parle de Chouchoucloub, la météorite du Mexique. Imaginez la température portée à des niveaux incroyables sur le point d'impact, et après un refroidissement absolument incroyable partout. Hein. C'est ça qui est intéressant. Par contre, je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire de la crise KT. Là. Les dinosaures, en fait, ils étaient sacrément affaiblis avant que cette météorite ne percute la Terre, et quelques-uns passent la crise. On a des groupes étranges comme les crocodiles. Mmh. Ils sont autant présents avant qu'après. Les poissons d'eau douce aussi.
Mais c'est l'eau qui les préserve dans tout ça ?
C'est pas, le plancton a pris un sacré coup. Ouais. Le plancton a été très maltraité après. Oui,
ou alors il y a ceux qui peuvent manger n'importe quoi. Parce que le problème des dinosaures, c'est pas qu'ils étaient pas adaptés, qu'ils étaient des vieux dinosaures. Non, ils étaient extrêmement adaptés. Mais du coup, leur niche écologique étant détruite d'un coup, ils succombent. Voilà.
Vous nous parlez d'un petit cochon d'ailleurs, qui s'en est bien sorti dans toutes ces histoires. On y revient dans un instant. Allez, les grandes extinctions de masse, dossier de la Terre au carré cet après-midi. Sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Pouvez-vous me dire ce qu'il y a de commun entre le dodo de l'île Maurice, entre le quagga d'Afrique du Sud, entre le tigre de Tasmanie et la grenouille plate du Queensland, éradiqués l'un après l'autre par l'homme? Des exemples comme ceci, il y en a des centaines. Et actuellement, les meilleurs spécialistes estiment que le rythme d'extinction des espèces est 100 fois plus rapide, au moins, que le rythme naturel, c'est-à-dire le rythme s'il n'y avait pas l'influence de l'homme. Depuis en fait la révolution industrielle, eh bien ce rythme explose, c'est la marque de l'homme et ce rythme d'extinction s'accélère.
Voilà le journaliste Nicolas Châteauneuf en 2020 dans le JT de France 2. Gilles Boeuf, puisqu'on parle donc de ces grandes extinctions avec le livre d'Alexis Génie, qu'est-ce qu'on peut justement décrire aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons? Est-ce que c'est vraiment, on peut faire un parallèle avec les grandes crises précédentes ou pas?
On peut le faire.
Ou c'est très différent?
Mais quel enseignement on peut en tirer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait fait des taux d'extinction moyens, ça a été beaucoup calculé sur des longues époques, les paléontologues ont pris des grandes séries, il y a eu des papiers célèbres là-dessus, donc on calcule un taux d'extinction. Hein. Le problème, c'est qu'on a beaucoup gardé les grosses espèces aussi, hein. Ça veut dire que tout ça est bien basé sur des espèces, d'ailleurs Alexis le dit très bien, qui sont fossilisables. Donc soit ils ont des squelettes, soit ils ont des carapaces ou des cuticules. Et ça, on peut les retrouver. Tout ce qui était avant, ou tout ce qui est mou entre-temps, on n'a pas grand-chose. Mmh. Tout à l'heure, on parlait des chauves-souris, on disait qu'un mammifère sur cinq, c'est une chauve-souris. On a très peu de fossiles de chauves-souris, très 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 peu, parce que c'est difficile à fossiliser. Donc, faut regarder ce qui se passe. En fossiles, on connaît 300 000 fossiles différents. C'est rien par rapport aux 2,4 millions d'espèces qu'on connaît aujourd'hui, bien évidemment. Donc, faut bien voir qu'on a des gros trous dans la raquette. Ceci étant dit, on peut dire des choses. Et c'est vrai que, depuis qu'on a ces arguments-là, en fait, je dis que les dieux ont été géniaux pour les humains quand ils ont inventé les os, les squelettes et puis les cuticules. On a eu des fossiles. Et là, on a pu raconter tout ça. Donc, ce qu'on fait, les calculs qu'on fait, c'est ramener au taux d'extinction moyen calculé. On démontre qu'aujourd'hui, effectivement, on perd beaucoup plus d'espèces que ce qui aurait dû disparaître dans le temps court qui nous concerne depuis deux siècles.
Camille, des questions?
Oui, Patrice nous demande si les oiseaux sont réellement considérés comme des dinosaures ou simplement leurs descendants. Alexis Génie, que répondez-vous à Patrice?
Non, alors, c'est plutôt des descendants. C'est-à-dire qu'il y a des structures squelettiques qui sont équivalentes, voilà ce qu'on peut dire. Et donc on peut penser que la racine, l'ancêtre des oiseaux était classé dans les dinosaures, mais c'est devenu quelque chose d'autre, simplement ça a hérité d'un certain nombre de structures squelettiques.
Une autre question de Gilles sur franceinter.fr, Gilles Boeuf, les insectes ont-ils de meilleures chances de survie que les mammifères, sachant qu'on rappelle aujourd'hui les insectes...
Oui, c'est une superbe question, parce qu'on aurait répondu à 3-4 ans oui, sans hésiter. Et puis quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, j'ai le papier de la semaine dernière qui est sorti, hein, donc c'est un papier fabuleux sorti dans le Biological Review, où il montre effectivement que si on tient compte des invertébrés, les taux d'extinction sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a imaginé à partir des chiffres de l'IICN, calculés sur les vertébrés, hein, des poissons aux mammifères. Donc les insectes aussi sont effectivement aujourd'hui menacés.
Les insectes, on parle de 80%, je crois.
Ça, c'est un travail allemand qui a été fait, d'ailleurs, qui est cité par Alexis il y a quelque temps, qui est très frustre. Hein. Ils avaient des pièges, et puis ils ont trouvé beaucoup moins d'espèces. Les 80% avaient disparu sur 27 ans, dans des zones considérées comme réserves pourtant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les moyens que l'humain a de pression sur la Terre, même les insectes, effectivement, sont très menacés. Et s'ils s'en vont aussi les oiseaux.
Avec ces génies, des publications alors, qui vous ont accablé. Hein,
oui, voilà, c'était un choc quand j'ai vu ça. Parce que moi, j'ai une sorte de répugnance phobique pour les insectes, donc je les ai peu étudiés. J'étais dans l'idée, en effet, ils résistent à tout. J'ai dû lire ça quand j'étais ado. Le cafard résiste aux radiations.
Voilà.
Bon, ok, donc j'imaginais qu'ils étaient increvables. Et puis, non. Quand j'ai lu le rapport de cette étude, je me suis dit, zut, même les insectes, ils y passent. Donc, on est dans quelque chose qui est gravissime.
Ouais.
Mais est-ce que je voudrais revenir sur le petit reportage là du Journal de France 2, ce que dit ce journaliste, en toute rigueur, est faux. On n'a pas une épidémie comme ça de disparition d'espèces. On a un effondrement des effectifs des populations. C'est pas la même chose. Ça veut dire que, en gros, si on leur fout la paix, ça repart. Mais quand une espèce a disparu, c'est pour la vie, si je puis dire. Donc, en fait, il faut faire attention. Notre sixième extinction, est-ce que c'est une extinction? Pour qu'il y ait une extinction, il faut que 75% des espèces disparaissent. Pour l'instant, on en est à quelques centaines. Sur 2 millions d'espèces.
Donc il y a des groupes d'espèces, Gilles Boeuf, qui sont plus concernés que d'autres,
oui,
et qui posent vraiment problème.
Chez les vertébrés, les amphibiens, par exemple, parce que leurs milieux sont très menacés, en fait, aujourd'hui. Mais l'extinction, c'est la fin du dernier des derniers. Ça peut prendre un certain temps, effectivement. Et aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec Alexis, on assiste à un effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes sauvages. Alors qu'on explose les domestiques par ailleurs, hein. 23 milliards de poulets, en ce moment, vous imaginez ce que ça représente, hein, sur la Terre, hein. Les activités humaines.
Hitchcock avait raison.
Donc, Donc c'est vrai que là, c'est important à prendre en considération. Alors est-on aux prémices, Bruno David parlait des prémices de la sixième crise, pourquoi pas? Moi j'évite un peu ce terme là aujourd'hui. Ce qu'il faut effectivement expliquer à nos concitoyens, c'est cet effondrement qui est extrêmement préjudiciable sur le fonctionnement des écosystèmes qui nous accompagnent.
Justement, quelles conséquences? Quand la biodiversité comme ça diminue, quelles conséquences? Alexis Génie écrit, les espèces opportunistes à forte fécondité prennent le dessus. Ça veut dire quoi ça?
Bah, ça veut dire que bon, faut venir un peu à la définition des écosystèmes. Les écosystèmes, c'est des systèmes complexes, qui sont résilients, donc du coup ils résistent en fait longtemps, jusqu'à un certain seuil dont on ne sait pas quand il va avoir lieu, mais qui sera un seuil d'effondrement. Dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, l'effondrement des populations est quelque chose d'assez grave et ça risque de basculer. Et donc, quand cette complexité des écosystèmes diminue, quand la biodiversité diminue, il va y avoir les espèces qui ont comme stratégie de se reproduire énormément, qui normalement sont contenues par l'écosystème en marche. Eh ben, ils vont avoir la voie libre pour pulluler.
Ça fait penser au virus, ça finalement, Gilles Boeuf. Vous qui signez un article pour la Sorbonne. Sur la crise du Covid, qui est une vraie crise écologique.
Complètement.
Parce que justement, il y a ces virus qui prennent de l'expansion, quoi, qui prennent leur place.
J'avais écrit à l'époque, notre ennemi n'est pas le virus, c'est nous-mêmes notre ennemi, en fait, qui créons les conditions, tout d'un coup, d'explosion d'un virus comme celui-là. Quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, ces produits, et qui aurait dû rester là-bas, confidentiel, a fait le tour du monde très très vite. Donc si je reviens à ces histoires, sur la résilience, j'aime beaucoup, on me dit, l'océan est résilient, le monde vivant est résilient. Oui, mais on ne peut pas résilier si on est mort. C'est ça que je passe mon temps à expliquer à mes concitoyens. Et c'est absolument fondamental. Bien sûr que la résilience est là. Donc aujourd'hui, comment on travaille subtilement à ce niveau-là? Et on a beaucoup de mal avec le monde politique, parce qu'il travaille à beaucoup trop court terme pour comprendre tout ça, en fait.
Et justement, une extinction, c'est pas... parce que il y a peut-être aussi cette image qui vient justement influencer dans le mauvais sens les politiques peut-être et d'autres. On se dit les dinosaures, ils sont morts, il y a une météorite, boum, tout le monde est mort d'un coup, c'était un événement, etc. Une extinction, j'imagine, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Si on prend ce qui se passe en ce moment, alors on ne sait pas encore si ce sera une extinction ou pas, mais ce sont des systèmes reliés les uns aux autres. On parlait des insectes, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de pollinisation. Enfin bon, est-ce que c'est ça qu'il faudrait expliquer, que finalement que tout est relié?
Oui, puisqu'il faut dire à nos concitoyens, c'est que si on continue comme ça, on y va à l'extinction, clair. Hein, je suis surtout pas un collapsologue ou un catastrophiste, mais si on ne fait rien, c'est ce qui va se produire, bien évidemment.
Vous parlez de l'effet domino, en fait.
Oui, bien sûr.
Aussi.
L'espoir que l'on a, c'est qu'on va encore réagir suffisamment à temps. C'est ça la question. Vous savez, on parle, nous, de la myopie du désastre. Voilà, on est en plein dedans aujourd'hui. Pourquoi cette myopie du désastre? Aujourd'hui, on sait aujourd'hui. Pourquoi on fait toujours rien? C'est une vraie question fondamentale du fonctionnement de l'économie actuelle et du cerveau humain aussi.
Exigénie.
Bah oui, après c'est vrai que il y a intérêt à ne pas changer. C'est-à-dire que les forêts tropicales sont une source de biodiversité extraordinaire et puis on les exploite, enfin on les ravage. On les coupe. Pourquoi? Parce que c'est une activité économique rentable. Alors le problème, c'est les activités humaines exercent une pression insupportable sur l'environnement. Bon, il faudrait arrêter ou au moins que ces activités n'exercent plus cette pression. Mais ça veut dire limiter l'économie. Et limiter de façon autoritaire l'économie. Parce que ceux qui vont déforester vont pas se dire « Ah ben non, je ne déforeste plus ». Bon, c'est un business. Donc, il faut être autoritaire. Ça tient à des règles, à des lois. On a bien vu Bolsonaro au Brésil. La première chose qu'il a fait, c'est il a fait sauter toutes les lois qui empêchaient d'aller exploiter les ressources en Amazonie en disant « Ce sont nos richesses, exploitons-les et que le reste du monde ne m'embête pas ».
Difficile d'avoir une bonne appréciation, comme lorsqu'aux États-Unis le créationnisme est pris très très au sérieux. Extrait du JT de France 2 en 2005, mais c'est toujours malheureusement d'actualité, avec Rusty Carter, vous allez l'entendre, qui est professeur évangéliste.
Rusty Carter organise des tours dans le zoo de Denver, Colorado, pour les élèves des écoles chrétiennes. Il est biologiste amateur, mais surtout porteur d'une bonne parole, celle de la Bible. La Bible lue au premier degré.
La Bible dit « Nous avons été créés à l'image de Dieu ». C'est pourquoi nous sommes différents des animaux.
Vous l'avez compris, Rusty Carter est un de ces petits soldats évangélistes qui participent à une large offensive déclenchée aux États-Unis contre la théorie de l'évolution de Darwin. Sa vision de l'histoire de la nature laisse parfois pantois.
Y avait-il la mort avant le péché originel d'Adam et Ève? Y avait-il la mort sur Terre? Non. Alors les fauves avaient-ils besoin de leurs griffes pour déchiqueter les autres animaux ou pour se protéger?
Non.
Ils n'en avaient pas besoin pour cela. Avant le péché originel, les griffes ne leur servaient qu'à grimper aux arbres. Après la faute d'Adam et Ève, la mort est apparue sur Terre. Et vous savez pourquoi les animaux ont été créés avec des couleurs, des dessins, des rayures et toutes sortes de formes jolies? Pour que nous prenions plaisir à les regarder. Et pour que nous ayons une occasion de glorifier Dieu.
Voilà, merci à Alain de Chalvron pour ce reportage. Gilles Boeuf, une réaction sur les propos de votre confrère biologiste. Hein.
Toujours affligeant. En fait, ils oublient une chose. Dans leur sang, ces gens-là ont du sodium, du potassium, des chlorures. C'est quoi? Pourquoi? Parce que simplement, on vient d'une vie qui sort de l'océan à une époque ancestrale antérieure. Et tout est comme ça. On est fichu de la même façon. On retrouve des hormones du cerveau humain. Maintenant, on a retrouvé des neuropeptides dans du corail. Il y a une histoire globale du vivant. On sort tous du même système. Tout ce qui est vivant est fait d'eau. Un bébé humain a quelques jours 97% d'eau liquide. Et un bébé humain qui naît les trois quarts. Alors, si on n'est pas dépendant de l'extérieur, expliquez-moi comment on ne sort pas d'un système complètement créé de toutes pièces comme cela. C'est difficile, hein, mais bon, de toute façon, face à l'idéologie, j'arrête. Hein,
Alexis Génie, c'est aussi un problème pour les professeurs.
Oui, tout à fait.
Ils sont confrontés à ça régulièrement. Hein.
Mais c'est vrai que si on regarde de près les raisonnements, ils sont relativement facilement démontables. Je pense que c'est une inquiétude. Il y a une inquiétude morale et une inquiétude intellectuelle, c'est-à-dire, ce sont des gens qui cherchent des déterminismes simples, des causes simples, et qui expliquent tout par des causes simples. C'est vrai que la science, qui ne crée pas des vérités, mais qui crée des questionnements avec des vérités provisoires, ça les inquiète. Donc ils voudraient que les choses soient claires et nettes. Oh, et dans ce monde, les choses ne sont pas claires et nettes.
Alexis Génie, prix Goncourt et Gilles Boeuf, biologiste marin, sont nos invités pour parler des grandes extinctions et de celles que nous pourrions être en train de traverser aujourd'hui.
L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Si soit-il. Tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, gros plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Dou-dou-dou-dou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Hey, tel est le nom du film. Trappling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Ainsi soit-il, Louis Chédid sur France Inter. Allez, encore quelques minutes avec nos invités Alexis Génie et Gilles Boeuf pour parler de ces grandes extinctions. Gilles Boeuf, on parle pas de sixième extinction alors aujourd'hui, si on veut être tout à fait juste dans les termes.
Disons que certains en parlent. Hein. Il y a un papier, ben, je parle, qui décrit les crises là, qui est sorti il y a 10 ans, qui dit « Sommes-nous en train de créer les conditions d'une sixième crise d'extinction ?» Enfin, je peux l'accepter. Hein.
Ouais. Bon, après, c'est mais peu... qualifier l'époque que nous vivons de sixième extinction, pardon.
Nous David dit on est aux prémices. On est aux prémices. Pourquoi pas? Ce que je dis clairement, c'est que si on continue comme ça, on y va. Donc j'espère qu'on va encore empêcher cette sixième crise d'extinction si on réagit avec des neurones qui sont à l'envers, pas à l'envers, qui sont dans le bon sens.
Alexis Génie, vous êtes optimiste là-dessus ou pas?
Optimiste
sur notre capacité.
Alors,
justement.
Ce qui est extraordinaire, c'est comme après les crises, il y a cette reconstitution de la biosphère. Il y a dans le vivant un principe de pullulation, c'est-à-dire que le vivant se reproduit, est envahissant, etc. Donc si on lui laisse la place, si on ne le contraint pas, il se reconstitue, il se développe. Ça veut dire qu'il y a encore possibilité actuellement de reconstituer les forêts, les sols, etc. Si on continue avec cette pression, on n'y est pas.
Et au-delà du titre de votre livre, « Cette planète n'est pas très sûre », il y a de l'optimisme quand même comme message dans ce livre ou pas ?
Il y a beaucoup d'ironie, voilà. Ouais. C'est de dire, oh là là, quand même, tous les X années, on disparaît tous. Et c'était David Rope qui était un scientifique qui avait travaillé là-dessus, qui disait que 99,999% des espèces qui sont apparues sur Terre ont disparu sur 4 milliards et demi d'années. Bah, c'est vrai tout simplement parce que les espèces ont une durée de vie de quelques millions d'années et après sont remplacées par une autre. Voilà. Donc c'est vrai que la plupart des espèces ont disparu. Alors voilà, donc c'était un peu d'humour parce que finalement c'est bien de raconter les sciences avec humour et vivacité parce que bon la méthode scientifique, le sérieux scientifique, c'est très utile, mais pour raconter c'est moins bien.
Voilà, et c'est donc de la pop science, vous le revendiquez, une narration dansante, celle d'Alexis Génie, cette planète.
Voilà.
Pas très sûr, c'est aux éditions Humaine Science. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler dans la Terre au Carré.